DW. Vue d'Allemagne.
C'est une première dans le monde, un Irakien condamné pour génocide des Yazidis, jugement prononcé par un tribunal allemand. On y revient dans un instant. Les prix du carburant, des œufs ou des matériaux de construction qui explosent, inflation jamais vue depuis 30 ans en Allemagne. Et puis gauche contre droite, progressiste, la société chilienne polarisée après les résultats du premier tour sur place, ce sera le grand reportage international de cette émission. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen, soyez les bienvenus. La décision a été rendue mardi à Francfort, en Allemagne. La justice a condamné à la perpétuité un djihadiste irakien pour génocide et crime contre l'humanité, crime de guerre et complicité de crime de guerre. C'est la première fois que la justice reconnaît, en le nommant ainsi, le génocide des Yazidis. Taï al-Jumali, 29 ans, a été reconnu coupable d'avoir laissé mourir de faim une fillette à l'été 2015 en Irak. Une fillette yazidi donc, qu'il avait achetée comme esclave. Il l'avait attachée à une fenêtre et laissée mourir de soif en plein soleil. Alors vous demandez peut-être pourquoi cet homme a été jugé et condamné en Allemagne. Il s'agit en fait du principe de la compétence universelle de la justice. Cela permet à un État de poursuivre les auteurs d'infractions très graves, même quand cela a été commis hors du territoire national. Le criminel condamné cette semaine avait été arrêté en Grèce en 2019. Cette condamnation est donc historique, réagit Natia Navrouzov, avocate et membre de l'ONG Yazda.
Le verdict envoie le message que les membres du groupe État islamique, mais aussi les auteurs de crimes en général, ne peuvent pas se cacher. Ils ne peuvent pas fuir dans un pays en espérant qu'ils pourront intégrer la société, en prétendant qu'ils n'ont pas commis de crimes horribles. Donc cela envoie le message que la justice gagne et aussi qu'il y a de l'espoir pour les victimes.
Et la minorité yazidi a été persécutée par les djihadistes dans le nord-ouest de l'Irak. Les femmes ont régulièrement été réduites en esclaves sexuels, les hommes tués par centaines. L'ONU avait déjà annoncé en mai avoir réuni la preuve claire et convaincante qu'un génocide avait été commis par les djihadistes contre les yazidis. La femme de l'homme condamné cette semaine en Allemagne avait-elle déjà été condamnée le mois dernier à 10 ans de prison ? Des condamnations donc multiples et importantes, souligne Natia Navrouzov.
Il s'agit de la sixième condamnation d'un membre du groupe État islamique rien qu'en Allemagne. Donc les survivants yazidis admirent définitivement l'Allemagne. Et nous espérons que d'autres pays en Europe, mais aussi dans le reste du monde, y compris l'Irak, suivront cet exemple.
Et un autre procès doit justement s'ouvrir en Allemagne encore au mois de janvier.
DW.
Je vous le disais en début d'émission, ça fait l'actu aussi en Allemagne cette semaine, l'inflation est au plus haut, la hausse des prix est de 5% en novembre, après 4,5% de hausse le mois dernier déjà, plus 22% même pour les prix de l'énergie sur un an. Ça se remarque pour tout le monde au quotidien, comme ici sur ce marché de Fribourg dans l'Ouest.
La nourriture pour les poulets est devenue si chère, c'est pourquoi les œufs sont si chers aussi. Et ça continue, les noix, l'huile d'olive est devenue si chère, ça explose en ce moment.
Du coup, j'essaye de prendre une douche seulement tous les deux jours.
Le problème est là, il va nous occuper longtemps.
Et il n'y a pas que sur les marchés, l'inflation a des impacts sur tous les secteurs de l'économie, comme celui de la construction par exemple. À près de 300 km du marché de Fribourg, Thomas Reimann est promoteur immobilier à Francfort.
Ce que je vis actuellement, je ne l'ai jamais vu dans le métier de la construction depuis 35 ans. Nous avons connu des hausses de prix massives en l'espace de quelques mois. Nous avons connu des pénuries d'approvisionnement. Les matériaux sont devenus jusqu'à 100% plus chers.
Une inflation record donc confirmée par l'Office des statistiques allemand en début de semaine. Du jamais vu depuis 1992 et même davantage dans certains secteurs, raconte Jörg Kremer. Il est économiste en chef de la Commerzbank, une banque allemande.
Personne ne s'attendait à ce que cela aille aussi loin. Il suffit de regarder les prix à la production en Allemagne. Ils ont augmenté récemment comme jamais depuis 1952.
Et le problème est d'ailleurs européen, inflation de 4,9% sur un an dans la zone euro. Le sujet est sensible en Allemagne, l'inflation renvoyant à celle de l'après-Première Guerre mondiale. Un des éléments souvent mis en avant pour expliquer la montée du nazisme qui suivra et conduira le monde à la Deuxième Guerre mondiale. Mais tentons aujourd'hui de nous rassurer. Certains experts assurent que les prix devraient baisser dès le début de l'année prochaine. Allez, et puis non pas gagné à la machine à sous, je ne résiste pas de vous parler de cette anecdote du week-end dernier à la télé allemande. Le Tagesschau, le journal du soir qui débute à 20h tout pile à samedi dernier, commençait de façon inhabituelle, comme ça. Ah, vous n'entendez rien ? C'est normal, il ne se passait rien à la télé, écran bleu avec l'horaire, puis finalement un peu de musique au bout de 30 secondes.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Et finalement, le début du journal.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau.
Voilà, début comme si de rien n'était avec 45 secondes de retard. Alors ça vous fera peut-être rire ces quelques secondes de retard. Mais ici, ce fut un petit événement. La télé allemande s'est excusée par la suite, expliquant que c'était évidemment un souci technique.
Vous écoutez la DW.
Allez, ici, pas de problème aujourd'hui en tout cas. Vue d'Allemagne, deuxième partie, direction à présent le Chili en Amérique du Sud. Vous le savez peut-être, un mouvement social a éclaté là-bas en octobre 2019 à cause de l'inflation là aussi et des inégalités sociales surtout. De ce mouvement est née une convention constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution pour mettre fin à celle de l'époque du dictateur Augusto Pinochet. C'est dans ce contexte que les Chiliens votaient il y a quelques jours pour élire leur nouveau président. Résultat du premier tour avant le second le 19 décembre, deux candidats complètement opposés arrivent en tête. L'un d'extrême droite, José Antonio Kast, et un autre de la gauche progressiste, Gabriel Boric. Sur place, Naila de Rouanet.
Le soir du 21 novembre, après l'annonce des résultats, les partisans du candidat José Antonio Kast se sont agroupés devant une scène installée en plein milieu d'une rue coupée à la circulation dans une commune riche de Santiago. José Antonio Kast, ex-député conservateur d'extrême droite, a martelé durant toute sa campagne que le pays avait besoin d'ordre et de sécurité. Il l'a encore rappelé dans son discours le soir du premier tour.
L'unique candidature présidentielle qui est une alternative pour affronter les délinquants et les narcotrafiquants, l'unique option qui mettra fin au terrorisme, c'est celle que nous représentons. Il n'y a pas d'autre option présidentielle que la nôtre.
Terrorismo es la que nosotros representamos. No hay otra. No hay otra opción presidencial que la nuestra.
Parmi les personnes présentes ce soir-là, Carlos, un retraité, est venu applaudir José Antonio Kast.
Je suis venu soutenir le seul candidat qui peut faire face à la terrible situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes livrés à un système anarchique vers lequel nous amène la gauche radicale.
Face à ces craintes, Carlos s'identifie pleinement dans le programme du candidat d'extrême droite.
L'état de droit, l'ordre, la sécurité, le respect, la liberté, Kast représente tout cela, un esprit conservateur et surtout un esprit patriotique. Regardez les drapeaux autour de vous, ce sont des drapeaux chiliens. J'espère que cette ambiance mystique va se maintenir et va croître. Nous ne pouvons pas rester tranquilles pour le second tour, nous devrons obtenir le double des votes que nous avons obtenus au premier tour. Nous devons détruire la gauche, la détruire.
Pour une fois, les sondages ne se sont pas trompés au Chili. Avec 28% des voix, c'est bien José Antonio Kast qui est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Mais il est suivi de très près par Gabriel Boric, un jeune député de la gauche progressiste qui a obtenu 26% des voix. Quelques kilomètres plus loin, dans la commune tranquille de Providencia, une autre scène est installée au milieu d'une rue également coupée à la circulation. Entouré de son équipe, Gabriel Boric s'est lui aussi adressé à ses partisans.
Hoy nos reencontramos con lo que somos.
L'ex-leader étudiant a largement soutenu le mouvement social de 2019 contre les inégalités au Chili et plusieurs des revendications de la population apparaissent aujourd'hui dans son programme.
Vamos a hacer mayoría y vamos a hacer las transformaciones estructurales que queremos.
Nous serons la majorité et nous allons entreprendre les modifications structurelles que nous souhaitons, en finir avec le système injuste des retraites, construire une santé juste et digne. Nous allons décentraliser le Chili. Nous avons beaucoup à faire et nous avons un futur à gagner.
Compañeros y compañeras, la esperanza le va a ganar al miedo.
Mes compatriotes, l'espoir vaincra la peur.
Beaucoup de jeunes ont écouté le discours de Gabriel Boric, dont Laura, elle, est étudiante.
J'aime le fait qu'il ait une vision féministe et aussi sa vision de protection de l'environnement. Il est aussi en faveur de la nouvelle constitution et ça c'est important car le processus d'écriture de la nouvelle constitution c'est pour en finir avec celle de Pinochet. C'est donc primordial que le prochain président soit favorable à ce processus.
Même si elle garde espoir, Laura est inquiète de voir l'avancée de José Antonio Kast.
Il est tout le contraire de ce que je pense et de ce que je veux pour le Chili. C'est une personne misogyne, homophobe, rétrograde. Je ne veux pas de ça pour le Chili.
Selon Claudia Hayes, politologue et académicienne à l'Université du Chili, la poussée de l'extrême droite a un lien avec la crise sociale qui a éclaté dans le pays il y a 2 ans.
Il y a une peur de l'instabilité et du désordre. La population est moins tolérante qu'il y a 2 ans. Lorsque la crise sociale a commencé, en octobre 2019, la mobilisation a reçu beaucoup de soutien et les gens toléraient le désordre provoqué par les manifestations. Mais aujourd'hui, avec la pandémie qui est passée par là, je crois que cette tolérance a diminué.
Pour la politologue, la participation des électeurs sera un enjeu majeur du second tour.
Beaucoup de personnes au Chili ne voient pas dans cette élection un moteur de changement. Et c'est là-dessus que doivent jouer les 2 candidats pour augmenter la participation et tenter de gagner de nouveaux électeurs. Car en l'état actuel des choses, ce sera très difficile, surtout pour Boric, de réduire l'écart qu'il y a entre lui et Kast.
Ce qui pourrait faire pencher la balance en faveur de l'un ou l'autre des 2 candidats, ce sont les électeurs qui ont voté pour Franco Parisi, arrivé en 3e position avec 13% des voix. Mais il est impossible de savoir à qui ces votes seront destinés, puisque Franco Parisi lui-même dit n'adhérer ni à la gauche progressiste de Boric, ni à l'extrême droite de Kast. Naïla de Rouanet à Santiago pour la Deutsche Welle.
Voilà, 2e tour donc le 19 décembre, je vous le rappelle. C'est avec ce reportage que se termine Vue d'Allemagne pour cette semaine. Rendez-vous à la radio et sur Internet la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, alles Gute, portez-vous bien, tschüss.